l'unique chose qui peut nous donner le salut, c'est l'œuvre de Christ.
Ça veut dire que nous, on n'a rien à faire. C'est Dieu qui fait tout. Il y a cette image que la Bible donne de la nouvelle naissance, que ouais. J'aime beaucoup. Parce qu'une naissance, c'est un truc que personne n'a choisi.
C'est vrai.
Et de la même manière, personne n'a choisi de naître de nouveau.
Je pense que ce qui fait la grande différence entre la foi chrétienne et toutes les autres fois, c'est qu'on a un mouvement de Dieu qui vient à l'encontre de l'homme. On dit que toutes les autres religions, toutes les autres philosophies, c'est on essaye par des œuvres d'atteindre une forme de spiritualité ou d'atteindre Dieu. Ce qui provoque ta conversion, c'est pas toi, c'est Dieu. Déjà, il faut commencer par là. Le salut, c'est vraiment l'initiative de Dieu. À aucun moment, l'être humain, il peut réussir à faire quoi que ce soit par rapport à ça.
C'est choquant en fait ce que tu dis. C'est-à-dire que finalement, de la même manière qu'on ne gagne pas son salut, on ne peut pas le perdre.
Attends, t'es relou. J'ai vu des gars qui étaient avec moi, qui servaient avec moi, et qui aujourd'hui sont plus chrétiens. Pour moi, l'évangile, c'est la réponse parfaite à l'existence humaine. La grâce de Dieu, c'est la réponse parfaite au péché de l'humanité. Raison pour laquelle,
si tu m'écoutes aujourd'hui,
si t'es cloîtré dans ton péché et que tu te dis il n'y a aucune issue, il y a une issue, c'est Christ. Si tu te sens indigne de Dieu, c'est que t'es la cible de Dieu. Précisément, toutes les fois où je me sens honteux, coupable, c'est que tu me cherches. Et je pense qu'on a trop diabolisé la société. On a lâché le monde au diable.
Mais de quoi on parle quand on dit le monde? Parce que ouais. Y a des versets qui nous disent en même temps n'aimez pas le monde.
Ouais.
Mais t'as quand même Jean 3,16 qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde.
Un seul sacrifice, un seul sauveur, un seul retour. C'est pour la gloire du Fils. On s'offre le même en retour. Frérot, tu sais qu'on est dévoué, 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 dévoué. Jusqu'à la mort, on est dévoué, 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 dévoué.
Yo l'équipe, c'est ton gars Joe et c'est toujours les 5 sola pour le salut d'une seule âme. Un seul Dieu, un seul homme, Christ le Shiloh, Shalom. Salam à toi aussi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le privilège, que dis-je, la joie d'accueillir Rubens.
Hey l'équipe, j'espère que vous allez bien. On est là, on est ensemble, la famille.
C'est le podcast Dévoué. Dis-nous un peu en quoi et à quoi tu es dévoué.
C'est une bonne question. Moi, personnellement, je suis dévoué à plusieurs choses. La première, bien évidemment, à Dieu, parce que du coup, je suis pasteur. Alors, bien moi d'être pasteur, je suis chrétien, je crois en Jésus, donc voilà, ma vie est dévouée pour sa gloire. Et je suis aussi dévoué à ma famille, du coup, parce que j'aime ma femme, j'aime ma fille, et ma vie est là aussi pour les servir. Et je suis aussi dévoué à mes amis, parce que j'aime beaucoup mes amis aussi. Donc voilà, Dieu, ma famille, mes amis.
T'es pasteur? Dis-nous un peu, c'est quelle église?
Ouais, du coup, je suis pasteur de l'église Fin de Paris.
Okay.
On se réunit aujourd'hui à République. Et ça fait maintenant 2 ans qu'on est pasteur à Fin de Paris avec ma femme. Et c'est une très, très belle église. Voilà, une petite pub pour ceux qui nous regardent. Si vous voulez passer un dimanche, soyez bienvenus. Voilà.
Gloire à Dieu, super. Yes. Je passerai bientôt.
Ouais, on t'attend, mon gars, on t'attend.
Bon, aujourd'hui, on va parler de Sola Gratia. Alors, c'est une formule, je pense, parmi les 5 Sola, c'est celui qu'on entend pas mal.
Ouais.
Parce que tu as écouté NK Divine,
ouais, vrai,
il a sorti un projet qui s'appelle Sola Gratia. Donc c'est une formule qu'on entend, il y a même un chant de louange qui s'appelle comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire en fait?
Ouais, c'est une super question. Alors le Sola Gratia, c'est issu de la réforme, hein, la réforme protestante. En réponse aux dérives catholiques, ils ont publié 5 Sola, dont le Sola Gratia qui veut dire la grâce seule. Voilà. Et du coup, l'idée derrière ce Sola Gratia, c'est de nous faire comprendre en fait que l'unique chose qui peut nous donner le salut, c'est l'œuvre de Christ. Et aucunement ce que les hommes pourraient faire ou ce que l'Église pourrait faire, mais uniquement ce que Christ peut faire et ce qu'il a fait justement à la croix et sa résurrection. Donc voilà pour résumer un peu ce que l'est le Sola Gratia.
Ça veut dire que nous, on n'a rien à faire. C'est Dieu qui fait tout.
Ouais.
Désolé, je te mets dans le bain
ouais,
direct.
Tu commences déjà, tu commences déjà très dur. Alors oui, sur le salut, évidemment, l'être humain n'a rien à faire. C'est uniquement par l'œuvre de Christ, effectivement, qu'on reçoit le salut. Je pense qu'en tant qu'être humain, on aime bien faire valoir un peu nos mérites. Et je crois même que ça naît justement de l'orgueil, de l'ego, de l'être humain, justement, de montrer un peu ses biceps. Mais toute l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui nous prouve que l'être humain est mauvais en réalité et que tout ce qu'il va essayer de faire ne peut aboutir justement à la vie éternelle. Raison pour laquelle il a fallu que Christ vienne, descende sur terre dans un corps humain pour souffrir, mourir et rester 3 jours après afin qu'on ait la vie éternelle uniquement par lui.
Mais ça peut être choquant de dire que l'homme n'a rien à faire en fait. Parce que les religions d'habitude, c'est les efforts que l'homme fait pour atteindre Dieu. Et en fait, concrètement, si ça dépendait de nous, personne ne serait sauvé en fait.
c'est vrai totalement. Je pense que le gros challenge justement de l'être humain, c'est comme je le disais, de renoncer justement à toute l'approche qu'il a de vouloir performer, de vouloir se faire justice par lui-même. Mmh. Et je pense que c'est justement une démarche de foi justement, tu vois, d'accepter pleinement l'œuvre de Christ et de renoncer à ce qu'on pourrait faire par nous-mêmes en réalité. C'est une démarche de foi. Parce que même lorsqu'on adhère justement à ce sola gratia, en tant que chrétien aujourd'hui, on peut être tenté de pervoir nos œuvres. Moi, par exemple, je suis pasteur, je pourrais dire, Seigneur, tu vois, j'ai prêché pendant des années, j'ai fait des études de théologie, j'ai aimé ma femme, j'ai servi plein de gens, j'ai donné de l'argent, j'ai fait tout plein de choses. Mais en vrai, rien de tout ça, en fait, ça vaut pour le salut. Rien de tout ça peut valoir. Bon, en fait, toutes les bonnes choses ne valent pas, tout autant que les mauvaises choses ne valent pas. C'est uniquement, effectivement, ce que Christ a fait pour nous à la croix.
C'est... Ça fait penser à ce verset, je crois que c'est Ésaïe 64, verset 6.
Oui.
Vous vérifiez. Mais c'est un verset qui dit que même nos œuvres de justice sont comme un habit souillé.
Ouais.
Ça veut dire que, en fait, devant Dieu, devant la sainteté de Dieu, devant sa perfection, en fait, toutes nos œuvres, ça n'a pas tellement de poids, finalement.
Ouais,
ça... C'est pas que ça n'a pas de valeur, parce que lorsqu'on accomplit des œuvres... les œuvres que Dieu a prévues d'avance. Ces œuvres-là, elles ont un impact éternel.
Ouais.
Donc, elles ne sont pas inutiles. Mais ce n'est pas ça qui nous réconciliera avec Dieu, parce qu'on est tellement corrompu par le péché. Il y a cette image que la Bible donne de la nouvelle naissance, que j'aime beaucoup. Parce qu'une naissance, c'est un truc que personne n'a choisi. Personne n'a choisi de naître.
C'est vrai.
Et de la même manière, personne n'a choisi de naître de nouveau. Tu vois ? Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Parce que là, on a dit c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui fait, mais qu'est-ce qui fait concrètement ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi la conversion ?
Ouais, je pense que ce qui fait la grande différence entre la foi chrétienne et toutes les autres fois, c'est qu'on a un mouvement de Dieu qui vient à l'encontre de l'homme. Tandis que toutes les autres religions, toutes les autres philosophies, c'est on essaye par des œuvres, par des réflexions, par des pratiques, d'atteindre une forme de spiritualité ou d'atteindre Dieu. Et Dieu nous prouve, justement, et c'est comme ça qu'il nous prouve son amour, justement, en envoyant son fils Jésus. Et effectivement, il change notre cœur parce que par nous-mêmes, c'est impossible, en réalité, de plaire à Dieu. C'est impossible par notre propre force, en fait, de lui être agréable. La réalité, c'est que j'ai pas besoin de montrer à ma fille comment me désobéir, elle va le faire. Parce que intrinsèquement, dans l'être humain, il y a cette appétence vers le péché, il y a cette appétence vers le mal.
Je l'ai vu chez mes enfants aussi.
Ouais, bon. Je crois que tous les enfants sont pareils. Mais du coup, on a besoin justement de Jésus qui vient transformer nos vies. Et comment ça se concrétise ? Effectivement, par, comme tu l'as dit, la conversion, la vie nouvelle. Et le Nouveau Testament abonde de références par rapport à ça. Il nous explique concrètement ce que c'est. Alors, moi, je dis souvent, ce qui provoque ta conversion, c'est pas toi, c'est Dieu. Déjà, il faut commencer par là. Parce que la conversion, c'est justement passer des ténèbres à la lumière, c'est naître de nouveau, justement, c'est devenir un enfant de Dieu, faire partie de la famille de Dieu, justement, naître de l'Esprit, comme le dit la parole de Dieu. Et ça, c'est une initiative qui est divine. Parce que de moi-même, je ne peux pas atteindre Dieu. C'est Dieu, dans son amour, qui me voit me perdre dans mon péché. C'est comme si je suis dans un immeuble en feu et moi, je suis là, je me dis, je suis au 15e étage, impossible pour moi de me sauver. Et puis, Dieu, c'est le pompier qui vient et qui me sauve, en fait. Et je pense qu'il faut vraiment réaliser ça, en fait, que le salut, c'est vraiment l'initiative de Dieu. Et que à aucun moment, l'être humain, il peut réussir à faire quoi que ce soit par rapport à ça. Donc, du coup, quand je dis que je suis né de nouveau, c'est vraiment l'intervention de Dieu qui vient et qui change mon cœur, en fait. Et qui me montre, en fait, comment vivre, justement, d'une nouvelle manière, comme Jésus a vécu sur Terre.
C'est choquant, en fait, ce que tu dis. Parce que du coup, on est vraiment impuissant, incapable. Et finalement, tu te dis, mais en fait, je peux rien, c'est Dieu qui fait tout.
Ouais.
Quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, je sais pas si je suis converti.
Ouais.
Je sais pas où est-ce que j'en suis avec Dieu. Qu'est-ce que tu lui dis ? Parce que finalement, là, on est en train de lui dire, ça dépend que de Dieu. Donc, t'attends juste que Dieu le fasse.
Ouais, c'est... Je pense qu'on est tous un peu passés par là, hein, au moment de nos vies. Mais je pense que ce qui prouve justement que Dieu habite en nous, c'est le fait qu'il nous attire à lui. Je vais même aller plus loin. Même une personne qui, malheureusement, peut-être est loin de Dieu parce qu'elle a péché ou parce qu'elle a fait des choses qui sont contraires à l'éthique chrétienne, je crois qu'à partir du moment où elle sent que ce qu'elle fait, c'est pas bien et qu'elle a besoin de retourner à Dieu, c'est la preuve qu'il y a quelque chose dans son cœur qui a été renouvelé. Parce que, en fait, tu peux pas vouloir te repentir naturellement. Lorsque je vois des personnes qui viennent me parler et qui me disent, voilà, j'ai péché, pasteur, j'ai l'impression que je suis plus digne de Dieu. En fait, sans s'en rendre compte, le fait qu'ils viennent me voir et qu'ils déclarent ça, c'est déjà un premier signe de repentance.
C'est déjà Dieu qui a agi, en fait.
C'est déjà Dieu qui a agi, en fait.
Donc, c'est pas eux.
C'est pas eux. En fait, naturellement, tu veux pas vouloir te repentir.
En fait, on se rend pas forcément compte quand Dieu agit, c'est ça.
Exactement.
Moi, tu sais, j'ai longtemps et encore aujourd'hui, je suis responsable de jeunes dans mon église. Ouais. Et j'ai des jeunes parfois qui me disent, moi, Dieu m'a jamais parlé. J'ai jamais entendu la voix de Dieu. Et c'est la base, parce que souvent, on attend un signe, on attend d'entendre une voix, truc et tout. Et j'aime trop ce... Tu vois, le passage où Jésus dit, qu'est-ce que les hommes disent de moi ? Donc les disciples, ils répondent, bah, y en a qui disent t'es Jean-Baptiste, il y en a qui disent t'es un prophète, il y en a qui disent plein de choses. Et Jésus dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites ? Et là, c'est Pierre qui prend la parole et qui dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Bien sûr. Et Jésus lui dit, heureux es-tu, parce que c'est pas un homme qui t'a révélé ça, c'est Dieu.
Dieu, ouais.
Mais est-ce qu'à ce moment-là, Pierre, il était conscient que c'était Dieu qui lui avait révélé ça ? Je pense pas, tu vois. C'était sa culture juive qui lui avait permis d'en arriver là, tu vois. Ouais. Et nous, parfois, bah, on peut avoir une éducation chrétienne, ouais, ou pas, mais on peut en arriver à un moment où on se dit, Jésus, c'est vraiment le Fils de Dieu.
Clairement.
C'est vraiment le Sauveur, le Messie.
Clairement.
Mais ça, c'est pas un homme qui te l'a révélé.
C'est pas un homme.
Ça, c'est Dieu.
C'est Dieu qui te l'a révélé.
On se rend pas compte, on a une conviction dans le cœur.
Clairement.
On pense que c'est, voilà, c'est moi, j'ai appris, j'ai compris, j'ai étudié la parole, ou on me l'a enseigné.
Ouais.
Mais au travers de ça, finalement, c'est Dieu qui a créé cette conviction en toi.
Clairement.
Parce que, en fait, c'est une folie pour l'homme. Donc, naturellement, l'homme naturel, il est incapable de croire.
Totalement, c'est impossible. Je pense qu'on réalise pas assez, justement, la grâce effective dans nos vies. Moi, je sais que dans ma vie, toutes les fois où je réalise que j'ai péché, moi, il faut savoir que j'ai connu dans mon adolescence la pornographie, toutes ces choses-là qui, voilà, m'ont éloigné de Dieu en un sens. À chaque fois que je tombais et que je chantais dans mon cœur quelque chose qui me ramenait à Dieu, c'est pas Rubens. C'est Dieu, en fait.
C'est ouf.
C'est pas la morale, c'est pas une culture. C'est Dieu, en fait, qui me ramenait à lui. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je pense que pour toutes les personnes qui nous écoutent là et qui se disent « Est-ce que Dieu me parle ?» Parce qu'en vrai, j'ai l'impression que je suis seul dans mon coin et que... Ouais, Dieu, il te parle, en fait. Parce que tu serais pas en train d'écouter ce podcast-là, tu serais en train d'écouter cette vidéo-là, en fait, si Dieu te parlait pas. Je pense qu'il y a vraiment une logique où Dieu vient nous chercher et parce que t'es sa brebis, il veut pas que tu sois loin de lui, il va trouver 50 000 moyens pour t'attirer à lui, en fait.
Je vais peut-être dire une dinguerie, mais tu sais, on attend souvent Dieu dans le surnaturel.
Ouais.
C'est super.
Ouais.
Mais Dieu, c'est le créateur du naturel, déjà, de base.
Totalement, ouais.
C'est le créateur du monde. Donc, tous les outils naturels, toutes les circonstances, Dieu est au contrôle.
Ouais.
Et surtout, dans tout ce qui nous amène à nous rapprocher de lui, à croire en lui, c'est l'œuvre de Dieu. Ouais. C'est l'œuvre de l'Esprit.
C'est l'œuvre de l'Esprit.
Donc... Tu vois, l'esprit, typiquement, l'esprit, on voit ça comme les langues de feu qui descendent et puis tac, je me contrôle plus, tu vois. Mais avant tout, l'esprit, c'est lui qui convainc, ouais, de péché, de justice, de jugement. Donc ces choses-là qui peuvent paraître naturelles, c'est l'esprit de Dieu qui fait, ouais, ça en nous.
C'est le premier miracle de Dieu en réalité dans l'être humain. C'est le premier miracle que Dieu fait dans l'être humain, c'est de percer son cœur. C'est de toucher son cœur pour qu'il puisse voir une folie. La folie qui a un Dieu qui s'est incarné dans l'humanité. Enfin, on le réalise pas encore, et peut-être qu'on dévient un petit peu du sujet, mais le fondement de la foi chrétienne, c'est de croire qu'un homme est mort et ressuscité 3 jours après. C'est le fondement de notre foi. C'est-à-dire que c'est ce que je prêche tous les dimanches. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, les gars, si vous croyez en ça, allez dire ça à une personne dans la rue lambda, elle va dire, mais qu'est-ce que tu me racontes, mec ? Il est mort 3 jours après ressuscité. Enfin, en fait... Peut-être que, enfin, toi et moi, on a grandi à l'église, on a depuis tout petit entendu ça. Peut-être que, bon, c'est tellement habitué au discours qu'on ne se rend pas compte de la folie que c'est. Va dire ça à un médecin, va dire ça à un gars qui est hyper raisonné, va dire, mais.
Et la dinguerie, c'est quoi ? C'est que ce mec-là, c'est notre sauveur.
Ouais.
C'est lui qui a été crucifié.
C'est fou.
Tu t'attends pas à ça, tu vois.
Ouais.
Tu t'attends à quelqu'un qui vient régner et tout. Et en fait, ouais, non. Jésus, il défie tous les codes.
Et je pense que justement, Dieu l'a voulu ainsi, tu vois. Il l'a voulu ainsi parce que je pense que Dieu a vu dans quelle logique elle est ce monde, tu vois. Et comme le dit la parole, Dieu a pris les choses viles de ce monde pour confondre les sages, tu vois. Dieu n'a pas voulu à ce que le Messie soit un roi hyper charismatique, avec une sagesse que tout le monde va reconnaître. Non, il a voulu que ce soit un enfant qui est dans une crèche à Bethléem, que personne connaît, il était pas beau gosse, puisque la Bible dit qu'il avait un pouvoir à attirer le regard. En fait, Christ, il est venu pour résoudre par une folie, la folie humaine.
Qui est le péché? C'est la sagesse de Dieu.
C'est la sagesse de Dieu.
On a besoin d'être renouvelé parfois, ouais, dans notre intelligence.
Parce totalement. Que
c'est pas un réflexe naturel pour l'homme de rechercher Dieu dans ces petites choses.
Absolument.
Et Dieu, parfois, se révèle dans le souffle doux et léger, tu sais, avec Élie.
Oh, c'est magnifique.
Merci. Merci pour ces encouragements. Je me pose une question, du coup, parce qu'on parle de la grâce. Tu vois, on a dit, vas-y, ça dépend pas de l'homme, ok, ça dépend de Dieu. Du coup, c'est quoi la place des œuvres dans la foi chrétienne et dans la vie chrétienne?
Déjà, je pense que si on pense que la grâce, c'est uniquement le fait d'être pardonné de nos péchés et le fait d'obtenir la vie éternelle par le sacrifice de Christ, je pense qu'on occulte une énorme partie de ce que Christ a voulu au travers de la grâce. La grâce, c'est beaucoup plus que simplement être pardonné des péchés. La grâce, c'est alors, je ne vais pas dire que c'est beaucoup plus qu'à vie éternelle, parce que pour moi, c'est l'objectif final.
C'est déjà extraordinaire.
C'est déjà incroyable, donc je ne vais pas mépriser la vie éternelle.
Non, mais tu as raison, parce que des fois, on peut s'arrêter à « vas-y, j'ai été sauvé, j'ai été pardonné, fin ».
En fait, y a plus que ça, en fait. Il y a aussi le fait que Dieu nous change. Dieu transforme mon cœur. Je pense qu'on oublie aussi parfois qu'on a été appelé à une vie nouvelle, et ça aussi, c'est la puissance de la grâce. La puissance de la grâce, c'est ce qui nous amène justement à nous détourner de nos péchés, effectivement, mais aussi à vivre comme Christ a vécu. Et Christ, il a vécu pour servir les gens. Les gars, enfin, moi, l'un des passages préférés dans la Bible, c'est Philippiens 2. Et les mêmes sentiments qu'il était en Christ. Lui qui était de condition divine, il s'est humilié au point de s'incarner, puis de devenir serviteur, pas simplement serviteur, mais il est jusqu'à la mort, à la mort à la croix. En fait, ce qui est magnifique avec ça, c'est que Jésus, il a accepté de vivre sur terre comme un serviteur. Et pour moi, c'est ça, les œuvres auxquelles Christ nous appelle, c'est des œuvres qui sont là pour lui rendre gloire, qui sont là pour montrer la vie que lui-même a vécue en réalité. Donc, moi, je prends mon exemple à moi, par exemple. Aujourd'hui, effectivement, je suis pasteur, mais je ne résume pas ma vie chrétienne au fait d'être pasteur. Oui, c'est l'un de mes moyens de servir l'Église, mais c'est ma vie qui est censée servir Dieu. Moi, les œuvres que j'espère porter devant Dieu, c'est comment est-ce que je traite ma femme, c'est comment est-ce que je sers ma fille, c'est comment est-ce que je parle au boulanger, c'est comment est-ce que je vais pouvoir bénir la personne dans la rue, c'est comment... En fait, ces œuvres-là, en fait, c'est justement ça, c'est à ça que Christ nous appelle au travers de sa grâce.
C'est les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.
Totalement.
En fait, c'est ouf, parce que du coup, n'importe quel chrétien, il peut se sentir concerné par ça.
Absolument.
Dans le sens où n'importe quel chrétien est appelé à servir, et c'est pas forcément en devenant pasteur, c'est pas forcément en étant chantre ou je sais pas, parce que il y a souvent certains rôles types pour un chrétien, tu vois. J'ai remarqué, les instrumentistes, les chanteurs, ils ont toujours leur place dans l'église.
Toujours.
Mais t'as des gens, ils ont pas forcément un don artistique ou un don de parler en public. Dieu les appelle aussi à servir. Il y a aussi des œuvres que Dieu a prévues d'avance pour qu'ils les pratiquent.
Absolument. C'est l'appel qu'on a tous reçu. Moi, je dis souvent aux gens, l'appel du chrétien, le ministère du chrétien, c'est le ministère du service. Avant de me parler de spécificité, parce qu'on peut avoir des spécificités par rapport au service, mais la première chose à laquelle Dieu nous appelle, c'est de servir. Donc moi, à chaque fois que dans l'église, parce que je suis pasteur, j'ai une personne qui me dit « Ah mais, pasteur, j'aimerais être sur l'estrade. Je me vois bien, genre, prier pour le début du culte, ou je me vois bien faire ci ou faire ça. » Je dis « Ah bon, ok, c'est cool. » Genre, en vrai...
T'as pas besoin de ça.
Il y a tellement de trucs à faire, parce que c'est pas l'estrade, le goal.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? En vrai de vrai, je vais vous dire la vérité, c'est vrai que je ressens l'appel de Dieu, effectivement, pour être pour être pasteur et servir l'Église. Mais tous ceux qui sont dans le ministère te diront « Ouais, j'ai réfléchi 20 fois à quitter le ministère, en un an. »
Tu vois?
Parce que c'est beaucoup plus qu'une... Les gens voient ça comme une promotion, comme étant un sujet de gloire. C'est une charge. C'est une charge. Et il faut réaliser que le premier rôle qu'on a en tant que chrétien, c'est d'abord servir. Et moi, avant d'être pasteur, avant d'être... moi, je servais, j'ai tout fait dans l'Église. Il faut tout faire, il faut servir les gens, et pas que les chrétiens, servir les gens aussi dans le monde. On n'est pas appelé qu'à servir les chrétiens, on est appelé à servir les gens dans le monde. Et je pense vraiment que c'est le challenge qu'on a aujourd'hui, c'est de réaliser effectivement les œuvres qui sont attachées à la grâce de Dieu, et que Dieu nous inspire justement à faire pour sa gloire.
Tu me fais penser à plein de questions, mais tu vois, on dérive, mais c'est pas grave. Tu vois, là, tu parles de servir dans le monde, pas forcément à l'Église. Est-ce que l'Église aussi devrait avoir un rôle dans ce sens-là? Dans le sens où, là, on est en train un peu de mettre la responsabilité sur les individus, tu vois. Chacun doit, dans son contexte, dans son travail, dans son voisinage, être un témoin, etc. Ouais. Et à côté de ça, il y a la vie d'église. Mais est-ce que les deux ne devraient pas être liés, tu vois ?
Absolument.
Et est-ce que, justement, ce ministère à l'extérieur, il doit être déconnecté de l'église, ou au contraire, il doit être porté et envoyé par l'église ?
Jonathan, tu vois, on va aborder ce sujet avec beaucoup d'humilité. Parce que, pour moi, c'est exactement ce que devrait être la vie chrétienne, tu vois. Maintenant, les églises ont des cultures, et on reproduit des modèles qu'on connaît, et comme on les connaît, ça nous sécurise. On se dit, ah bon, ça va, dans une église, il y a un pasteur, il y a un chantre, il y a un responsable sono, il y a un responsable... Ok, c'est bon, ça va, ça fonctionne plutôt bien, c'est cool. Et on pense, moi, dans mon mindset, j'ai toujours pensé service est égal église. Alors qu'en réalité, c'est faux. Je crois vraiment qu'il ne faut pas... Et je crois que c'est ce qui crée, avant d'aller dans mon second point, je crois que c'est ce qui crée justement la séparation de beaucoup de chrétiens entre l'église et leur vie quotidienne. En gros, il y a le dimanche matin où j'enfile mon habit de chrétien et... Là, mon gars, je suis tout sain, je suis tout parfait. Et puis lundi, je retrouve mes gars, je retrouve mes gos. Et puis, c'est notre vie qui commence, tu vois. Justement parce qu'on n'a pas cette révélation de... En fait, c'est H24 que je suis censé servir. C'est pas juste le dimanche matin. Donc, c'est pas une condamnation que je suis en train de dire. Je dis simplement que je pense qu'il y a un truc qui doit être réformé dans nos esprits pour comprendre que, justement, Dieu nous appelle à servir, pas simplement le dimanche, mais lundi, mardi, mercredi, jeudi... Vendredi, samedi, puis le dimanche avec les saints. Tu vois ?
Et puis c'est même la place de l'église dans la vie quotidienne, tu vois. Ouais. Parce que, encore une fois, là t'as fait les jours de la semaine et t'as... l'église, c'est le dimanche, tu vois.
Ouais.
Et je sais pas si c'est le modèle biblique, notamment dans les Actes, où les chrétiens se voyaient tous les jours, où ils vivaient des choses ensemble quotidiennement. Et alors, ça n'a rien à voir avec nous, notre vie actuelle, parce que on est chacun de son côté, tu vois. Il y a plein de choses qui sont différentes, mais est-ce que l'Église ne devrait pas avoir une place dans notre vie quotidienne, non comme l'activité, le truc...
Ou les réunions.
Ouais, mais plus comme une vie. Quand on dit l'Église, je vais préciser quand même, on parle de, pas du lieu, on parle de la communauté de croyants.
Ouais.
Qu'on soit clair là-dessus, n'importe quel chrétien doit faire partie de l'Église.
Ouais, je suis d'accord.
Tu ne peux pas être chrétien dans ton coin,
et
ça n'a pas de sens.
Impossible.
Ça n'a aucun sens, ce n'est pas le plan de Dieu pour la vie chrétienne.
Un grand amen à ça. Répète-le encore, s'il te plaît.
si t'es chrétien, tu dois avoir une église. Tu ne peux pas dire « je suis chrétien » sans église, ça n'a aucun sens.
Ça a un non-sens.
C'est l'épouse de Christ, c'est l'église.
Ouais.
Tu ne peux pas aimer quelqu'un, je ne peux pas dire « toi, je t'aime bien, mais ta femme, là, je ne calcule pas ». La personne va être vexée, je pense. Donc c'est pareil avec Dieu.
C'est une vraie punchline que tu viens de dire là.
Donc l'Église, ça, c'est un rôle central dans le plan de Dieu, mais c'est pas toujours l'Église comme nous on l'entend. C'est des disciples qui font des disciples. C'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres que le monde verra qu'on est les disciples de Christ.
Hein. Amen. C'est ça.
Jean 13, 35,
ouais.
Quelque chose comme ça. Et comment le monde va voir l'amour des chrétiens si on reste que entre nous ? Donc à un moment donné, tu sais. Il y a plein de ministères d'évangélisation, mais je me demande si ces ministères ne devraient pas être reliés à des églises.
Ouais.
Parce que des fois, on fait ça un peu dans notre coin, tu vois.
Bien sûr.
Et on devrait réfléchir à comment l'église doit avoir un rôle dans notre vie quotidienne et un rôle aussi dans ces ministères d'évangélisation.
Ouais, c'est super pertinent ce que tu dis, Jonathan. Franchement, du fait justement de relier l'église à la vie quotidienne, je trouve ça hyper pertinent. Mais c'est le challenge justement des églises modernes, tu vois, de nos églises justement à nous, de réussir à s'imprégner justement de la communauté pour une vie quotidienne, en réalité. Mais oui, je pense que l'Église doit avoir un rôle dans la société, et ça dépend aussi de la vision justement qu'a l'Église sur la société. Et je pense qu'on a trop diabolisé la société. On a lâché le monde au diable. Alors, on va me dire, mais Pasteur Rubens, en fait, la Bible dit que justement, le monde est la propriété est sous l'emprise du malin, ainsi de suite. Je vais te répondre que oui, effectivement. Mais le monde, c'est Dieu qui l'a créé. Et même si c'est empreint du péché, selon moi, ça reste la propriété de Dieu. Et pour moi, on ne peut pas laisser la chasse garder au diable le monde, justement. Et c'est la raison pour laquelle aussi le rôle de, justement, la lumière du monde, celle de la terre, comme le dit Matthieu, c'est ça qu'on est aussi le sel. Le sel est censé préserver, tu vois. Je crois que le rôle de l'Église, c'est justement de préserver la société, justement, de toute forme de déclin moral, de déclin sociétal, tu vois. Donc, je pense qu'il y a vraiment un truc à aller creuser dans ça. Je suis d'accord avec toi, Jonathan.
T'abordes un truc que je voulais aborder. En fait, je crois qu'il y a un amalgame dans l'Église. Des fois, on dit le monde. Mais de quoi on parle quand on dit le monde? Parce que ouais. Y a des versets qui nous disent en même temps « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Hey. » Mais t'as quand même Jean 3,16 qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Donc c'est quoi le monde? Et en fait, la question, c'est ça. C'est, on a parlé de la grâce. Sur la gratia, ok. La grâce salvatrice, on en a parlé. La grâce transformatrice, on pourrait dire ça.
Ouais.
Et la grâce commune. Qu'est-ce que c'est la grâce commune? Comment on doit voir le monde?
Ouais. Ce dont je suis convaincu, c'est que dans nos cultures d'église traditionnelles, il faut qu'on réussisse à mettre à jour, je dirais, notre rapport au monde. Parce que je crois que le chrétien reclus sur lui-même, reclus sur sa communauté, je ne pense pas que c'est la vision que Christ a pour son Église. Mmh. Alors, il y a cette partie-là, effectivement, d'être en communauté, de s'édifier les uns les autres, ainsi de suite. C'est le rôle de l'Église, mais le rôle de l'Église, c'est aussi d'équiper pour envoyer. Mmh. Tu vois. Donc, il faut qu'on ouvre nos yeux sur l'extérieur, sur le monde, effectivement, et qu'on réalise, effectivement, que le monde n'est pas que diabolique, mais que c'est de bonnes choses qui se passent dans le monde.
Et c'est ça la grâce commune.
Parce que c'est ça la grâce.
Je précise, c'est un terme que tout le monde ne connaît pas forcément, mais il y a ce verset qui dit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons.
Amen.
Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes.
Absolument.
C'est un principe biblique. Il y a la grâce pour les chrétiens.
Oui.
Mais il y a aussi une grâce, c'est pas la même, c'est pas une grâce salvatrice, mais il y a une grâce pour tous les hommes. Et il y a même une grâce pour le monde entier. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, Dieu a créé le monde est bon. Il y a des bonnes choses dans ce monde.
Ouais.
Et nous, quand on parle du monde, parfois, ce qu'on veut dire, c'est l'esprit du monde.
L'esprit du monde.
C'est l'influence du monde. Ça, c'est mauvais.
Ouais.
Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est dans le monde est mauvais.
Est mauvais. C'est exactement ça.
Après, on peut rentrer dans des débats plus techniques.
Ouais, on peut être très
musique
technique.
Du monde.
Musique du monde.
Les films
voilà,
du monde.
Voilà,
les soirées mondaines.
Voilà,
il y a plein de sujets qui seraient intéressants à aborder.
Les baguettes du monde. On peut aller loin dans ça. On va pas rentrer dans le débat. On va rester tranquille, on va rester calme. Mais ouais, en tout cas, je pense qu'il faut réussir à réformer notre vision du monde pour que ça soit beaucoup plus biblique, je dirais. Comme tu l'as dit, il n'y a pas que du mauvais dans le monde. Tu vois. Et encore une fois, je pense que ça peut être un crime d'orgueil que les Juifs eux-mêmes ont eu vis-à-vis des peuples païens, en se disant, nous, on est le peuple élu, on a tout compris, et eux, là, les peuples, il faut qu'ils se fassent circoncire, il faut qu'ils connaissent, il faut qu'ils voient la grâce de Dieu. J'ai l'impression qu'on reproduit en tant que chrétien l'orgueil qu'ont eu les Israélites vis-à-vis des autres peuples, qu'ils ont considéré comme étant des païens et comme étant le monde. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Je pense que, en tant que chrétien, il faut réussir à se dire, il y a des trucs qu'on n'a pas compris. Et que peut-être, dans le monde, ils ont compris. Alors, encore une fois, c'est une posture d'humilité qu'il faut avoir pour pouvoir le dire. Y a plein de choses qu'il y a dans le monde qu'ils ont réussi à saisir, qu'ils ont réussi quand je dis monde, il ne faut pas comprendre l'esprit du monde qui est négatif et qui soit la puissance du mal, mais comme tu l'as défini, les choses positives qu'il y a dans ce monde, je crois que grâce à la grâce commune, justement, que Dieu accorde à l'humanité, il peut y avoir des choses qui peuvent édifier des chrétiens. Et qui pourtant ne sont pas dans l'église. Alors quand je dis édifier, c'est pas édifier spirituellement, mais faire du bien aux chrétiens.
Mais t'as raison de dire ça. Mais t'es en train de dire, en gros, il y a des trucs dans le monde qui peuvent nous faire grandir dans la foi.
Ouais.
Tu sais que moi, je suis grave d'accord avec ça.
Ouais.
Mais c'est une dinguerie.
C'est une dinguerie. On est d'accord. C'est une dinguerie, mais ouais.
Mais tu sais quoi, moi, j'ai un appui biblique pour ça. J'ai Romains 1 qui me dit que les perfections de Dieu, je ne sais plus trop comment c'est dit, mais ces perfections éternelles sont visibles depuis ce qu'il a créé.
Ouais.
Et tu as même le psaume 19 qui parle du fait que, à travers la création, on peut comprendre des choses de Dieu.
Ouais.
Moi, je suis convaincu que quelqu'un peut venir à la foi en Christ juste en regardant le monde. Et parfois, on différencie les deux parce qu'on dit qu'il y a la révélation générale, c'est-à-dire il y a la manière dont Dieu a créé le monde, et puis il y a la révélation spéciale, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui contient le message de l'Évangile.
Ouais.
Mais moi, je vois les deux très liés. Et j'ai écrit un texte qui parle de ça, ça s'appelle « Infinité de l'univers », où j'explique la manière dont, finalement, si on regarde bien le monde, on en vient automatiquement à l'évidence de l'existence de Dieu.
Absolument.
On en vient à comprendre en partie qui est Dieu, le fait que Dieu est tout-puissant, qu'il est sage, qu'il est intelligent au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, qu'il a une volonté, qu'il a un plan.
Ouais.
Et je crois qu'on peut aussi comprendre qu'on a besoin d'un sauveur. Ouais. Que ce monde est corrompu par le péché, et on peut placer notre foi en un sauveur, même si on n'a pas la révélation très précise de Jésus, etc. Et c'est là qu'on a besoin de la parole, c'est là qu'on a besoin de l'Église et des chrétiens qui prêchent l'Évangile. Mais ce que je veux dire, c'est que en regardant le monde, en écoutant peut-être des choses du monde, ouais. Et ben on peut comprendre des choses de Dieu. Mais pour ça, bon, faut faire attention parce que faut pas tout mélanger non plus.
Ouais, je suis d'accord. Mais enfin, c'est tellement vrai ce que tu dis parce que en fait, le message de l'Évangile nous fait comprendre effectivement la réalité de l'existence humaine et apporte une réponse à l'existence humaine. Mmh. Mais ce qu'il nous faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas que l'Évangile qui pose un constat sur l'existence humaine. Toutes les philosophies posent un constat sur l'existence humaine. Toutes les religions posent un constat sur l'existence humaine. Donc, ce n'est pas juste nous, chrétiens, qui essayons d'avoir un discours pertinent sur l'existence humaine, mais tous les hommes le cherchent. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est bien la preuve qu'il y a un truc. Tu vois ce que je veux dire ?
On n'est pas en train de parler d'un genre de salut universel. On n'est pas en train de dire que non. Tout le monde peut avoir son propre Dieu. Et puis, non, il y a la Bible, il y a une révélation spéciale.
Il y a une révélation spéciale,
il y a
une vérité.
Un seul Dieu.
Ouais, voilà. Absolument.
Ce Dieu-là s'est révélé dans le monde, il a créé le monde.
Absolument.
Et le texte de Genèse, les premiers chapitres de la Bible, nous montre la manière dont Dieu a créé le monde. C'est pour nous montrer que finalement, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, que tout ce qu'on pourrait appeler Dieu, que ce soit le soleil, les étoiles, ouais. La terre, la mer, toutes ces choses-là, c'est Dieu qui les a créées, donc c'est lui le seul Dieu. Mais vu que c'est lui qui les a créées, il y a une certaine empreinte.
Absolument.
Et ça, on le voit aussi en nous, hein, puisqu'on ouais. est créé à l'image ouais, de Dieu. Dieu. Donc l'être humain a quelque chose de divin.
Ouais.
En tout cas, il est l'image de Dieu, il a une empreinte divine, ouais. même si malheureusement cette image, on l'a salie,
ouais.
on l'a dégradée, mais il y a quand même quelque chose encore. Et il y a quelque chose qu'on peut cerner de Dieu dans le monde.
Je vais m'aller plus loin, il y a une restauration qui est en cours grâce à la grâce, justement.
Amen.
Grâce à la grâce de Jésus qui œuvre en nous. Donc, ouais, je te rejoins à 100%. Jonathan.
Donc c'est ça, la grâce commune, c'est pas une grâce qui va changer le monde.
Non.
C'est pas ça qui va apporter la rédemption, la restauration.
Non.
Mais ça peut être un indicateur.
J'ai rien que c'est un indicateur de l'amour de Dieu. Tu vois, parce que, oui, la Bible annonce un jugement pour l'humanité qui ne se repent pas, mais la grâce commune nous montre que l'amour du Père est réel pour l'humanité. Dieu n'aime pas que les chrétiens, il aime le monde, vraiment. Donc, ce principe de grâce commune, pour moi, nous révèle justement la grandeur et la profondeur de l'amour de Dieu.
Comment tout ça va impacter notre vie ? On a parlé de la grâce salvatrice, transformatrice, la grâce commune. Le fait de comprendre que tout n'est que grâce, le fait de comprendre que c'est Dieu qui est à l'origine,
ouais.
c'est tout ton parfait vient de lui. Le fait de comprendre ça, comment ça change notre manière de vivre concrètement ? Parce que sinon, ça reste que théorique et on est ouais. là en train de discuter, c'est super.
C'est cool.
On est en train de s'engrainer, de dire « Waouh, c'est incroyable, Dieu est bon !» Mais concrètement, maintenant, quelqu'un qui a peut-être déjà saisi cette grâce salvatrice, mais comment, aujourd'hui, dans sa marche chrétienne, comment il doit dépendre toujours plus de Dieu ?
En fait, cette question, pour moi, elle résume toute la marche chrétienne en réalité. Et c'est une démarche qui est quotidienne. En fait, moi, je le dis aujourd'hui devant les caméras, j'ai pas honte de le dire. Parfois, j'ai envie de prendre le pas sur la grâce de Dieu sur ma vie. J'ai envie de le faire. J'ai envie de montrer que je suis quelqu'un devant Dieu. J'ai envie de montrer que je suis capable de faire des choses. J'ai envie de performer. Tu vois, j'ai envie de montrer que mes œuvres, elles comptent. Et à chaque fois, Dieu m'humilie, en fait. Il me fait comprendre que tu pourras faire ce que tu veux, Rubens. Tu pourras essayer de montrer à tout le monde à quel point tu es brillant, à quel point tu es magnifique, à quel point tu es majestueux. Mais la réalité, c'est que tu auras toujours besoin de ma grâce. Et en fait, lié à la notion de grâce, il y a cette notion d'humilité. Tu vois, je crois que la grâce nous humilie. Elle nous humilie en réalité. Pas dans le mauvais sens, pas dans le sens humiliation, médiocrité, mais dans le sens où elle nous remet à notre place. Tu vois. Et je crois que justement, la vie chrétienne, elle doit être vécue justement dans cette perspective-là. C'est ça que la Bible parle de travail à son salut avec crainte et tremblement. Pas dans le sens où on doit avoir peur de perdre son salut ou avoir peur de Dieu lui-même, mais plus de quand je réalise la grandeur de l'amour de Dieu au travers de sa grâce, je me fais petit.
Justement. Est-ce qu'on peut perdre le salut ?
Je sais que t'as...
Je l'ai balancé comme ça. Voilà, t'en fais ce que tu veux. Non, je précise parce que c'est une question.
Ah,
est-ce qu'on peut perdre le salut ? C'est... En fait, t'as des gens qui ont une conviction tellement forte sur la question que pour eux, c'est anathème de penser autrement. Et là, tu l'as dit, il y en a qui vivent une vie chrétienne dans la peur de perdre le salut.
Ouais.
comme si au moindre péché, ils allaient commettre un péché impardonnable, blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà, c'est des notions bibliques. Est-ce que, parce que là, on a parlé de la grâce de Dieu, on dit que finalement, le salut ne dépend que de Dieu.
Ouais.
Ça veut dire que ça ne dépend pas de nous.
Ouais.
Ça veut dire que finalement, de la même manière qu'on ne gagne pas son salut, on ne peut pas le perdre. Ouais. Dis-nous ce que tu en penses.
Jonathan, t'es relou. T'es relou, mec.
Moi, je sais même pas ce que tu penses sur le sujet.
Ouais.
Et je t'ai dit, j'attends le moment des podcasts.
Je vais pas dire aux gens. Je vais pas dire aux gens ce que je pense. C'est justement pour ça que tu sais pas. Non, mais je vais te dire ce dont moi je suis convaincu personnellement pour ma propre vie. Je suis convaincu que je vais perdre mon salut. Je suis convaincu que quand je vois comment j'en suis arrivé là aujourd'hui. Quand je vois à quel point je suis béni, à quel point je suis heureux, à quel point ma vie a changé, je peux que dire que c'est la grâce de Dieu qui a fait dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Je peux aucunement dire que c'est parce que Rubens, il a fait ci ou il a fait ça. Aucunement, tu vois. Pour moi, c'est l'effet de la grâce de Dieu dans ma vie. Donc, dans ce sens-là, même si demain je m'éloigne, j'ai la conviction que Jésus viendra me chercher parce que c'est toujours ce qu'il a fait. Tu vois. Par contre, force est de constater dans les Écritures qu'il y a de multiples avertissements aux chrétiens à persévérer dans la foi. Force est de constater aussi que dans mon expérience personnelle, j'ai vu des gars qui étaient avec moi, qui servaient avec moi et qui aujourd'hui ne sont plus chrétiens. Tu vois. Donc, je peux être convaincu d'une chose doctrinalement parlant, j'en suis convaincu pour moi, mais de manière générale, je te dis la vérité, Jonathan, je sais pas. Parce que la réalité, le domaine du salut, c'est pas le domaine de l'être humain, c'est le domaine de Dieu. Tu vois ? C'est-à-dire que moi, je peux être convaincu pour moi, je peux être convaincu pour moi, mais la vérité, c'est que je pourrais pas savoir pour toutes les personnes qui sont là et qui nous écoutent. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux être convaincu pour ta propre vie, mais pour les gens qui sont en face d'eux, tu sais pas. Tu peux même porter du fruit et dire, mais ce gars-là, punaise, c'est sûr, il est chrétien. Enfin, c'est sûr que alors, tu peux voir des fruits de l'esprit, des choses qui agissent dans sa vie, mais en fait, tu ne peux pas savoir à coup sûr. Parce que le salut, le jugement, c'est le domaine de Dieu. Et je reviens à ce que je disais juste avant, il faut de l'humilité, tu vois. Ça veut dire, c'est bien d'avoir des convictions théologiques, tu vois, mais nos convictions théologiques devant Dieu, elles ne valent pas grand-chose, en réalité, tu vois. Je me souviens, quand j'étais en école de théologie, on avait fait un cours où l'introduction, c'était justement de faire comprendre qu'il faut aborder les Écritures avec beaucoup d'humilité, parce qu'on n'aura jamais une doctrine qui est parfaite. Ne jamais essayer de comprendre Dieu parfaitement, même si les Écritures nous révèlent qui est Dieu et le plan de salut, ça ne nous permet pas de conceptualiser Dieu et de l'enfermer dans un cercle intellectuel. Tu vois ce que je veux dire ? Donc par rapport au salut, bien évidemment, le plan, il est donné, on peut être sauvé, c'est un fait. Moi, je suis convaincu que je suis sauvé. C'est l'effet de la grâce de Jésus qui est dans ma vie. Je le proclame, je le savoure. C'est une réalité. Et pour les autres, j'en sais rien, mec. J'en sais rien. En fait, j'aurais du mal à le prêcher du haut d'une estrade. Je prêcherais pas non plus le fait qu'on perd son salut comme ça à tout va.
Ouais.
Pour moi, c'est la propriété de Dieu. C'est le jugement de Dieu. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ma position.
Ouais.
Ça t'en penses quoi, du coup, merci. Jonathan ?
Non, en tout cas, merci pour ta sincérité. Moi, je vais répondre, t'inquiète pas. Ce qui pose problème sur cette question-là, c'est la manière dont les gens vont le comprendre et le mettre en pratique.
Ouais.
Parce que tu l'as dit, tu vas pas le prêcher du haut d'une estrade, parce que pourquoi ? Parce que si tu commences à dire « on peut pas perdre le salut », t'as des gens qui vont peut-être le comprendre en mode « ah, donc… »
Open bar.
Voilà, le péché a abondé, la grâce a surabondé, donc je vais continuer de pécher, de toute façon, je peux pas perdre mon salut. Mais la Bible, elle est totalement à l'inverse de ça. Hein. C'est Romains 6 qui dit on va encore persister dans le péché alors qu'on est mort au péché. Non, non. Donc ça, c'est une manière de mal comprendre. Et à l'inverse, si on commence à dire attention, vous pouvez perdre le salut, Dieu peut... Tu sais, l'image dans Romains 11, des branches qui peuvent être retranchées, vous pouvez être retranchées et tout, et qu'on insiste là-dessus, mais on vit plus sous la grâce, on vit plus...
On vit sous les œuvres.
Voilà.
La performance.
Voilà, exactement.
Ouais.
On s'appuie sur nous-mêmes pour le salut.
Ouais,
et puis on est dans une peur constante de perdre le salut. Et on n'a plus une confiance, une assurance de notre salut. Tu vois.
Alors, je prêche l'assurance du salut.
Mm.
Je le prêche au sens de, Ce n'est pas par tes propres œuvres que tu seras sauvé, mais tu feras l'assurance que Christ a tout payé pour toi et que si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. En ce sens-là, tu peux être sûr d'être sauvé. Aucun problème. Tu vois. Par contre, je ne pourrais jamais dire que je suis sûr qu'une personne est sauvée.
C'est là où
tu vois, c'est la nuance ouais, que moi je pose. Délicat. Tu vois, c'est la nuance que je pose, tu vois.
Parce que on a tous des témoignages comme ça de personnes qui se sont engagées, baptisées, servies dans l'église, prêchées l'évangile. Ouais. Ils ont même fait des disciples. Au final, ils se sont éloignés. Et là, tu peux pas dire qu'il a pas perdu son salut. En tout cas, tu peux que dire que peut-être qu'il l'a jamais eu.
Ouais.
C'est la seule manière de
totalement
de comprendre.
Les voies de Dieu sont impénétrables. Mmh. Tu vois, encore une fois, il y a des choses qu'on peut comprendre, qu'on peut saisir. Le salut, on peut le saisir, on peut l'agripper, se l'approprier par la foi. Mais en ce qui concerne les autres, pour moi, tu peux avoir des indices qui montrent qu'une personne est sauvée. Les fruits, par exemple, le style de vie, la repentance, sont des signes qui montrent qu'une personne est sauvée. Mais you don't know. I don't know. Désolé, je parle anglais parce que je suis un franglais. Mais j'en sais rien en vrai de vrai. J'espère, je prie pour.
Ouais.
En tant que pasteur, je prie pour que les membres de mon église persévèrent jusqu'à la fin. D'ailleurs, c'est le critère absolu du salut. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin.
Mais
justement, les Écritures.
Justement, 1 Corinthiens 1, verset 8 nous dit « C'est lui aussi, en parlant de Jésus-Christ, qui vous affermira
Amen.
Jusqu'à la fin. »
Commande.
« Pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Amen. Jésus-Christ. » Donc oui, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé, c'est dans Matthieu 24.
Et c'est Jésus qui le permet.
Et c'est Jésus qui nous fait persévérer, c'est lui qui nous a fermés jusqu'au bout. Donc c'est toujours la grâce.
Toujours la grâce, toujours la grâce, on est d'accord avec
c'est
ça.
C'est toujours la grâce.
On est d'accord.
Mais du coup, il faut que je réponde quand même, tu m'as relancé la question.
J'ai tendu la perche.
En fait, moi je pense que c'est d'un point de vue humain, visible,
ouais.
Tu vois. Quelqu'un, tu le vois professer la foi, tu le vois renier Christ. Au début, tu aurais pu dire « Ah, ben, il est sauvé », et après « Ah, ben non, il n'est plus sauvé ». Ok.
Ouais.
Mais je suis convaincu que Dieu, il est au-dessus de ça. Lui, il savait, il est au contrôle.
Ouais.
Et selon la grâce de Dieu, une grâce efficace qui appelle au salut, qui appelle à la repentance, etc., et qui ensuite, comme je l'ai lu, qui affermit jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Christ, pour la persévérance des saints, je crois que tout ça, c'est Dieu qui l'accomplit. Et donc, vu que ça dépend de Dieu, on ne peut pas le perdre. Du point de vue divin, d'un point de vue spirituel, tu vois ce que je veux dire
ouais.
Du point de vue si on était Dieu ou qu'on voyait les choses de cette manière-là. Mais évidemment que d'un point de vue humain, on le voit dans la parole, tu l'as dit, il y a des avertissements.
Ouais.
Tu as des Hébreux 6 et des Hébreux 10 qui nous disent qu'en gros, il y en a qui ont connu Christ et qui l'ont refoulé, qui l'ont renié.
Ouais.
Et c'est très très grave. Et donc, il ne faut pas prendre ça à la légère non plus. Et les avertissements, il faut bien les prêcher aussi, mais je reste convaincu que voilà, Jean 10, il dit « Mes brebis, je les connais, elles entendent ma voix et me suivent,
Amen.
Personne ne pourra les arracher de ma main.
Ouais.
Le Père me les a données, personne ne peut les arracher de la main de mon Père.
Mmh. »
Ça, c'est des promesses que Dieu tient et qui sont réelles, qui sont éternelles. Et Jean, l'apôtre Jean, dit aussi dans son épître « Je vous écris parce que vous avez la vie éternelle. » Tu vois. Donc, il y a une place aussi pour l'encouragement dans ce sens, de dire à ses frères et sœurs chrétiens, vous avez la vie éternelle, ouais. C'est déjà acquis.
Ouais.
Ce n'est pas un truc que vous devez encore obtenir par vos efforts. Non, vous l'avez déjà en Christ.
Amen.
Tout est accompli.
Ouais. Non, je pense qu'il y a totalement de la marge pour qu'on puisse grandir dans le sola gratia, tu vois. Parce qu'au final, là, tu reviens justement à le fondement même de ce qu'on est en train du sujet de ce podcast, qui est la grâce seule, tu vois. Et je pense que si on se focus uniquement sur la grâce seule, qui est l'œuvre de Christ, alors oui, c'est solide comme la terre sur laquelle on marche.
Mm.
Enfin, il n'y a rien qui peut nous déstabiliser de ce que l'œuvre que Christ a faite.
Mm.
Donc voilà, et peut-être qu'effectivement, comme tu l'as dit, ceux qui ont quitté, peut-être qu'ils n'étaient jamais chrétiens, c'est aussi possible. Hein. C'est aussi possible, mais je ne connais pas les cœurs, je ne suis pas Dieu.
et tu parlais de comment tu prêcherais la grâce. Comment on invite quelqu'un à la foi alors qu'on sait que c'est Dieu qui mène à la foi ? Tu vois ce que je veux dire ?
Wow.
Quel impact cette doctrine-là peut avoir sur notre manière de témoigner ?
Jésus, c'est la manifestation, la concrétisation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Donc forcément, dans mon discours, il sera présent. Je crois qu'il faut annoncer l'amour de Dieu aux gens.
Mmh.
Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte qu'il y a une autre vie qui est possible. Tu vois, je pense qu'il faut annoncer la vie nouvelle.
Mmh.
Il faut annoncer que la drogue, le manque de pardon, l'homosexualité, que les fêtes, que les trahisons qu'on a vécues, que les blessures qu'on a lorsque nos petits copains, nos petites copines nous quittent, que c'est pas des finalités en fait. Qu'il y a une vie nouvelle qui est prête et qui est là pour nous en fait. Qui est la vie de Dieu.
Mais là, tu vois, c'est ouf ce que tu es en train de dire. Parce que tu es en train de dire que prêcher la grâce, c'est aussi dénoncer le péché.
Ouais.
C'est aussi
absolument.
Pointer du doigt les impuretés de nos cœurs.
Absolument. Toujours. Je pense que la grâce est toujours en réponse au péché.
Mm.
La grâce, elle vient pas comme ça sur quelque chose de neuf, sur quelque chose de clean. La grâce est en réponse à un péché. Donc pour moi, on doit faire la liaison avec notre condition humaine qui est désastreuse. Tu vois. Donc, et c'est ce qui est beau. Peut-être que ça fait mal de reconnaître nos faiblesses, le fait que notre existence humaine elle est chaotique.
Mm.
Mais la bonne nouvelle, c'est justement que c'est pas une finalité. Tu vois, c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Mm. Moi, quand j'ai réalisé que j'allais mourir un jour, c'était un choc. Ça a changé ma conception de la vie, genre, tu vois. Et c'est ce qui m'a rapproché de Jésus, tu vois. Et je pense que le fait de comprendre qu'il y a une vie nouvelle qui est prête pour nous, que Dieu a prévue pour nous, qui commence dès maintenant et qui ne va jamais terminer en vivant éternellement avec Christ, pour moi, c'est la réponse parfaite à l'existence humaine. Pour moi, l'évangile, c'est la réponse parfaite à l'existence humaine. La grâce de Dieu, c'est la réponse parfaite au péché de l'humanité. Tu vois, raison pour laquelle, si tu m'écoutes aujourd'hui, si tu es cloîtré dans ton péché et que tu te dis qu'il n'y a aucune issue, il y a une issue, c'est Christ. C'est Jésus. Tu vois, si tu crois en lui, il y a une porte qui est ouverte, tu vois. Il y a, tu vois, des issues de secours ici ou pas? Il y a des issues de secours, tu vois, il y a un truc vert, là. Tu vois, Jésus, c'est ça, en fait. Tu vois, tu penses que t'es enfermé ici, tu te dis, punaise, mais en fait, il n'y a que quatre murs, je connais tout par cœur, il n'y a aucune issue. Et il y a tout un monde qui attend dehors. Il y a tout, alors pas le monde dehors, attention. Hein, il y a toute une vie qui attend dehors. C'est une image pour nous faire comprendre qu'en fait, la vie en Christ, extraordinaire.
Mm.
Elle n'a rien à voir avec le quotidien qu'on peut vivre, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est une relation spirituelle pour le coup, tu vois, qu'il faut qu'on puisse recevoir. Mais chacun peut la recevoir par la foi en Christ.
Et comment toi, tu l'as reçue? Parce que là, tu l'as évoqué rapidement, tu as parlé de cette peur de la mort.
Ouais.
C'est intéressant, comme porte d'entrée quand même vers la grâce.
Ouais.
Comment toi, tu l'as expérimenté, la grâce de Dieu?
Moi, je le vraiment comme quelque chose de progressif dans ma vie, pas juste à un moment marqué où je me dis « Ah ouais, là, c'est ouf, ça y est, j'ai compris la grâce de Dieu. » Oui, il y a eu cet événement-là, comme je viens de le dire, où quand j'étais jeune, j'ai réalisé qu'un jour, j'allais mourir. Et je me suis dit « Mais en fait, c'est quoi la vie, en fait ?» Tu vois, forcément, tu te poses des questions, tu te dis « Mais en fait, c'est quoi le sens de la vie ? Comment diriger ma vie ?» Tu vois ce que je veux dire ? Donc, à ce moment-là, ça m'a rapproché de Dieu. Forcément, lorsque j'ai réalisé aussi mon addiction à la pornographie, que c'était mal devant Dieu, que j'avais une vision déformée de la femme, ainsi de suite, ça aussi, effectivement, ça m'a fait réaliser le besoin que j'avais d'être renouvelé dans mon intelligence, d'être renouvelé dans mon âme, dans mon cœur par rapport à ça. Mmh. Ça a été un besoin de la grâce de Dieu. Plus encore, lorsque j'ai compris que Dieu voulait m'utiliser, lorsque j'ai compris que Dieu m'appelait au ministère pastoral, j'ai besoin de la grâce de Dieu aussi à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire ? Pour aimer ma femme, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Pas qu'elle est méchante, elle est super ma femme. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour l'aimer comme lui l'aurait aimé.
Ouais.
Pour élever ma fille, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour l'élever selon ses principes. En fait, j'ai besoin de la grâce de Dieu à chaque instant de ma vie, en fait. Peut-être que, voilà, c'est la réponse facile. Tu vois ce que je veux dire? Mais je le vois vraiment comme ça, en vrai de vrai, tu vois.
Non, mais c'est beau. C'est-à-dire que tu l'expérimentes à chaque nouveau défi, dans chaque situation.
Moi, mon challenge par rapport au Sola Gratia, c'est d'apprendre à ne jamais m'en priver.
Mm.
De jamais me dire à un moment, ouais, c'est bon, j'ai compris la grâce. Allez, quel orgueil. Tu vois ce que je veux dire? Pas au sens où j'ai pas compris le sens du message de la croix. Non, c'est pas ça. C'est dans le sens où je veux prendre et saisir toute la puissance, toute la grâce qu'il y a dans la grâce de Christ pour ma vie, tu vois. Et ça, pour moi, c'est mon challenge. Et c'est aussi pour ça, à chaque fois que j'entends un message sur la grâce, je me pose comme un non-converti. À chaque fois qu'un prédicateur prêche la grâce de Dieu, je dis, Seigneur, je veux t'entendre à nouveau.
Mmh.
En fait, il faut que je sois émerveillé comme si c'était la première fois que je réalisais ça, en fait. Parce que le message de la grâce, ça va tellement à l'encontre de la logique humaine, de la performance humaine, de ce que tu peux faire, de ce que tu peux obtenir par tes propres forces, de prouver que, en fait, ça te remet à ta place. Et à chaque fois que je réalise la grâce de Dieu, c'est en mode... ah ouais, j'ai encore du boulot, genre. Mmh. Du boulot à m'humilier, à juste dépendre de Dieu, genre, tu vois.
Tous les jours.
Tous les jours,
c'est un nouveau...
C'est quotidien.
C'est une nouvelle conversion, en fait. C'est une nouvelle... En tout cas, c'est un moment où on redonne nos vies à Dieu. Absolument. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Quand tu as dit, mon défi, c'est de ne pas me priver de la grâce.
Ouais.
Comment vivre ça, en fait? Comment ne pas se priver de cette grâce? Et c'est là que je me dis, bah, en fait, la parole, Dieu, nous a donné des moyens de grâce. Des moyens par lesquels on peut expérimenter sa grâce. Et donc, quand on dit de ne pas se priver de cette grâce, typiquement, viens, on ne se prive pas d'aller à l'église.
Ça serait bien.
Viens, on ne se prive pas de prier.
Prier ensemble, ouais.
Viens, on ne se prive pas de lire la parole.
Comment?
Pourquoi on se prive de ça? Pourquoi on passe des journées entières, des semaines entières, sans expérimenter la grâce de Dieu à travers la lecture, la méditation de la parole, tu vois?
Ouais.
Il y a plein de moyens. Je pense même à la Sainte-Seine. Ce repas qui est aussi un moyen de grâce par lequel on expérimente la grâce de Dieu. Ouais. On se rappelle des souffrances de Christ pour nos péchés et du fait qu'il a tout accompli, qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu, que tout est fait. Et on en a besoin régulièrement de se rappeler de l'œuvre de Jésus. Il y en aurait d'autres encore. Tu as d'autres peut-être conseils à donner? Comment on peut ne pas se priver de la grâce de Dieu?
Je pense que c'est d'abord en réalisant que notre chair va aller à l'encontre de tout ce que tu viens de citer. Tu vois? C'est-à-dire que naturellement, moi, je me réveille. Si je me réveille, je regarde mon téléphone et que je n'ai pas prié ou lui mettre blavant, c'est comme si j'allais en un champ de guerre sans ranger les pare-balles. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le monde est tellement instable que tu peux vivre des trucs dans ton quotidien sans t'en rendre compte, ça a un impact sur toi, en fait. Tu vois. Et moi, souvent, je résume le fait de prendre mon temps avec Dieu comme quand je m'arme pour aller à la guerre. Seigneur, protège-moi. Donne-moi mon gilet pare-balles. Donne-moi mon casque. Donne-moi ma mitraillette. Donne-moi, donne-moi tout ce dont j'ai besoin pour vivre, en fait. Tu vois, parce que la réalité, c'est que lorsqu'on y va sans armes, le monde peut nous abattre. Le diable peut nous abattre, tu vois. Notre quotidien est à l'encontre, justement, des moyens de grâce que Dieu veut pour nos vies. Notre chair aussi, notre corps. Enfin, si je vous dis, là, les gars, vas-y, on fait 3 heures de prière, vous allez me dire, ouais, bon, Ruben, c'est cool, c'est intéressant ton moyen de grâce, mais chill, t'as capté. Doucement avec la grâce. Non, pas parce que sur l'idée... Prier, c'est mauvais, mais parce que tu sens que ma chair me dit ça va me coûter genre d'aller prier. Tu vois ce que je veux dire? C'est Gad qui va le dire. Tout ce qui est de l'esprit est contraire à la chair, tu vois. Et je crois vraiment qu'il y a cette dualité-là, en fait, qui sera toujours présente entre la dynamique charnelle et la dynamique de l'esprit. Lorsque je me réveille et que la première chose que j'ai envie de faire, c'est regarder Netflix, ça peut forcément dire que c'est un péché. Mais je veux dire par là que la vie selon la chair, c'est la vie indépendamment de Dieu. Ouais. Je la résumerais comme ça.
Ah oui.
Tu vois, je peux pas faire une journée indépendamment de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? La logique de l'esprit veut que tout ce que tu vas faire va être lié à Dieu. Comme tu l'as dit, pour moi, prier, même quand t'as pas envie, prie. Lis ta Bible. Même quand t'as envie de lire ta Bible, lis un chapitre. Tu verras que souvent, c'est lorsque t'es dans le moment spirituel que t'es édifié. Tu te dis, ah ouais, heureusement que j'ai prié, heureusement que j'ai lu ma Bible, parce que ça m'a édifié. Combien de fois j'ai commencé un moment de prière et j'ai fini en larmes parce que Dieu m'a touché à un moment donné. Et je lui dis heureusement que j'ai prié ce jour-là parce que franchement, Dieu m'a encouragé en fait au travers du moment de prière. Tu vois, en fait, souvent, je dis pas toujours, mais souvent, on n'aura pas envie d'aller prier ou de lire notre Bible parce qu'on va se dire, mais en fait, j'ai juste pas envie de le faire en fait, tu vois. Et je le dis parce que ça m'arrive. Mmh. Mais la logique veut qu'on soit des disciples et un disciple est discipliné. Voilà, c'est une punchline pour vous les amis. Je suis pas un rappeur comme Jonathan, mais j'essaye de me mettre au niveau. Un disciple est discipliné.
Je vais te l'avouer.
un disciple est discipliné.
Oui.
Un disciple va au-delà des émotions. Un disciple va au-delà de ses humeurs. Et pour moi, c'est justement ça de ne pas se priver de la grâce. C'est justement de discipliner sa vie pour justement mettre dans son quotidien des éléments où on va rencontrer Dieu. À travers de la prière, la parole de Dieu, la communion fraternelle, le jeûne. La Sainte-Seine. Voilà, toutes ces choses-là, effectivement, c'est ce qui nous rapproche de Dieu, nous rapproche de la communauté de Dieu.
Et tu sais que tu as des gens qui se privent de ces outils de grâce parce qu'ils se sentent indignes, parce qu'ils se sentent loin de Dieu. J'ai une sœur qui va se reconnaître qui, pendant plusieurs années, n'arrivait pas à prier.
Wow.
Parce que, elle s'était éloignée de Dieu, mais il y a un problème dans le raisonnement. C'est justement par la prière que tu vas te rapprocher de Dieu. Ouais. C'est quand tu es loin de Dieu que tu as besoin de ces moyens de grâce.
Ouais.
C'est quand tu es dans le péché que tu as besoin de la communion fraternelle, de vivre avec les frères et sœurs. Tu as besoin de prier, tu as besoin de dire la... Tu vois ?
Ouais.
Et des fois, on a le raisonnement inverse. On se dit, moi, c'est parce que je suis loin de Dieu, je ne suis pas digne, je ne vais pas aller à l'église. Des fois, c'est le regard des gens. C'est, j'ai peur d'être jugé. Des fois, c'est soi-même. En vrai, on se trouve des excuses. Et...
Ouais.
Mais c'est ça, la grâce. C'est justement des moyens qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu quand on en a besoin. Et on en a besoin tous les jours. Et particulièrement quand on a commis un péché.
Ouais.
Particulièrement quand on se sent loin de Dieu, qu'on est découragé, qu'on traverse une épreuve. C'est dans ces moments-là où on a encore plus besoin de la grâce de Dieu.
Ouais.
Et donc, c'est pas dans ces moments-là qu'il faut se priver de cette grâce.
Au contraire, c'est le moment où tu dois courir vers la grâce de Dieu. Moi, il y a quelque chose que j'adore dire lorsque je prêche. D'ailleurs, une vidéo que j'avais publiée sur Instagram qui était devenue virale, justement, avec cette phrase que j'ai dite. Je disais que précisément, si tu te sens indigne de Dieu, c'est que tu es la cible de Dieu. Précisément, si tu sens que tu n'es pas digne de la grâce de Dieu, c'est que tu es la cible de Dieu. C'est que c'est toi que Dieu veut chercher.
Et... Jésus est venu pour les injustes et pas les justes, comme un médecin vient pour les malades et
exactement.
Pas les gens en bonne santé.
Exactement. C'est-à-dire que moi, toutes les fois où je me sens honteux, coupable, c'est que Dieu me cherche.
Ouais.
C'est que Dieu me cherche parce qu'il veut changer ce sentiment-là. Il veut... Alors, la culpabilité et la honte, ce sont des réactions normales au péché. Mais Dieu, il veut nous laver toutes ces choses-là. Courons vers Dieu.
Amen.
Genre, y a... Dieu ne va pas nous punir, Dieu ne va pas nous fouetter en disant « Ah, c'était... qu'est-ce que tu as fait encore ? Ça m'énerve !» Non, enfin, c'est pas le Dieu qu'on sert. Dieu est un bon père et il a de l'amour pour nous. Alors oui, il y a des péchés qui ont des conséquences dans nos vies, c'est un fait, c'est des réalités. Mais l'amour de Dieu reste intact, la grâce de Dieu reste intacte.
Et on l'a dit, c'est cette grâce qui va justement nous permettre de progresser, d'être transformé et de ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Et...
Je vais aller plus loin, ça vient de venir à l'esprit. Un autre énorme passage dans Romains, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.
Wow.
Si vous méditez sur ce passage, ça va révolutionner votre foi. Vraiment, j'en suis convaincu. Si tu réalises que tu n'étais même pas encore en train de te tourner vers Dieu, que Christ a déjà fait le pas de pourvoir aux moyens pour que tu sois sauvé, ça montre que Dieu n'a même pas attendu que tu te sanctifies pour t'aimer. Il n'a même pas attendu que tu aies un bac plus un en sanctification pour t'aimer. En fait... t'étais encore en train de te noyer dans tes erreurs, dans ton style de vie bizarre, que Dieu avait déjà choisi de t'aimer. Donc si Dieu m'a aimé au moins 15, c'est pas au moins 1 qui va plus m'aimer, c'est pas au moins 2 qui va plus m'aimer, au contraire. En fait, la sanctification qui est aussi justement la puissance de la grâce qui est effective dans la vie du croyant, montre que en fait, tu seras jamais trop loin pour Christ, tu seras jamais trop loin pour lui. Et ça, je sais que ça défie les pensées, ça défie les religieux. Mais même moi, quand je me bats avec ça, parfois, je t'assure, parfois je fais face à des choses dans l'Église, des cas de péché, tu vois. Ou parfois, t'as juste envie de dire, de manière très dure, ouais, repends-toi, quoi, arrête. Et parfois, il faut le faire. Mais souvent, ce que Dieu me rappelle, c'est son amour pour eux, tu vois.
Justement, je me demandais cet équilibre-là. Tu parles de prêcher la repentance, prêcher la grâce. Quelqu'un qui vient à l'église, imaginons qu'il est homosexuel.
Ouais.
Est-ce qu'on lui prêche la repentance ? Est-ce qu'on lui prêche la grâce ?
Ouais.
Comment on doit... quelqu'un qui est chrétien, né de nouveau, et qui retombe dans les mêmes péchés, comment on doit vivre la grâce avec cette personne-là ? Tu vois ? On en a parlé avec nous-mêmes, de ne pas se priver de la grâce, etc. Mais dans nos interactions, surtout en tant que pasteur, responsable, etc., avec soit d'autres chrétiens, soit de personnes en recherche.
Ouais. C'est toujours le challenge, justement, d'être fidèle à l'Évangile et de prêcher tout le package de l'Évangile, de ne rien occulter, tu vois. Lorsque tu regardes la croix, t'es à la fois effrayé et à la fois ébahi par la beauté de ce qui se passe.
Ouais.
Ébahi parce que Christ est mort pour les péchés de l'humanité, mais de l'autre côté, tu vois... le jugement de Dieu, aussi effroyable que ça puisse être, qui est passé par la passion de Christ. Donc, tu as les deux éléments. Tu as l'amour de Dieu effectif, mais tu as aussi le jugement de Dieu effectif. Ouais. Donc, quand je suis devant la croix, tu as les deux dynamiques, en fait. Tu as la dynamique de waouh, Christ, Dieu m'a aimé au travers de Christ, c'est incroyable, mais aussi, mais c'est le jugement de Dieu, en fait, qui s'est opéré là. En fait, c'est waouh, genre, c'est chaud, genre, tu vois. Et je pense que c'est cet équilibre-là qu'il faut maintenir, justement. Lorsque je vois l'œuvre qu'il a faite et qui est extraordinaire, respect, donc crainte au sens respect. Mmh. Mais lorsque je vois le jugement qui a été fait sur Christ, j'ai peur de Dieu. Dieu, c'est pas mon pote, tu vois. Oui, l'amour de Dieu est extraordinaire, mais Dieu est aussi un feu dévorant, tu vois. Après, encore une fois, chaque cas est particulier, tu vois. Lorsqu'il y a des cas dans les églises, lorsqu'il y a des problèmes, justement, par rapport à un péché, tu vois. Je pense qu'il faut s'efforcer de toujours dire la vérité. Dans l'amour. Tu vois, faut dire la vérité, mais dans l'amour, tu vois.
Je pense à un autre verset, c'est Romains 11, 22, qui dit « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Wow. Sévérité envers ceux qui sont tombés, bonté envers toi, si tu demeures dans sa bonté.
Ouais. »
Et ouais, il y a vraiment les deux. Et comme tu l'as dit, à la croix, c'est le meilleur exemple, en fait. Il y a le jugement, il y a l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a la sainteté de Dieu, il y a la grâce de Dieu.
L'un n'a pas sans l'autre.
Et dans tous les épisodes bibliques, à chaque fois que Dieu envoie un jugement, il y a toujours aussi un moyen de grâce. Tu vois.
Totalement.
On peut penser au déluge avec l'arche de Noé. On peut penser à la destruction de Jéricho et Rahab qui a été sauvée, tu vois. À chaque fois qu'il juge, il y a aussi la grâce, il y a aussi une main tendue.
Ouais. Amen. Et c'est ça la bonne nouvelle, tu vois. Je pense que c'est ce qui fait que j'ai jamais eu peur de confronter une personne. Parce que je sais que mon point final, ce ne sera pas « Dieu te juge et c'est fini pour toi ». Il y aura toujours une porte ouverte vers la repentance et vers le pardon, justement, du péché. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je crois qu'il faut toujours dire la vérité dans l'amour. Je suis adepte de ça.
Ouais.
Ça veut dire que je crois qu'il n'y a rien de pire que de vivre l'Église dans la peur de dénoncer un péché. Parce que lorsqu'on ne dénonce pas un péché, c'est le diable qui prend la place. C'est le diable qui fait son œuvre.
Donc ce n'est pas forcément dans les possessions et les combats.
Allons pas loin, les gars. Allons pas trop loin. À partir du moment où tu persévères dans un péché et que personne ne te confronte par rapport à ça, c'est qu'il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, il faut marcher dans la lumière. C'est ce que va dire Jacques. Il faut confesser les péchés les uns aux autres. Et moi, je considère que c'est marcher dans la lumière.
En fait, la confession, c'est aussi un moyen de grâce.
C'est un moyen de grâce. À fond. On l'a oublié, mais c'est grave un moyen de grâce. Et on s'en prive.
On s'en prive trop souvent.
À cause de la honte et de la culpabilité.
Tu sais que t'as des gens qui se privent même du baptême. Des chrétiens nés de nouveau qui se privent du moyen de grâce qu'est le baptême.
Wow. Non, c'est fou. Mais ça, tu vois, ça, ce sont des tactiques de l'ennemi pour essayer de nous maintenir en dehors de ce que Dieu a pour nous. Pour nos propres vies, pour notre délivrance, pour notre bénédiction, pour notre croissance spirituelle, tu vois. Donc ouais, tu vois, demain, si un homosexuel vient à l'église, parce que dans mon église, il y en a, tu vois, je leur dis, t'es au bon endroit. T'es chez toi, ici. Par contre, ce que tu dois savoir, c'est que sur l'estrade, t'entendras qu'on va dénoncer l'homosexualité comme étant un péché. Par contre, je veux en aucun cas te priver de la communauté qu'est l'église. Parce que je crois que l'église est une bénédiction pour le monde. À partir du moment où tu viens dans une église, peu importe ce que les gens vont dire sur les pasteurs, sur les communautés, « Ah, j'ai été blessé par une église hein. », l'église, c'est l'épouse de Christ. Quand t'es dans l'église, t'es béni. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, mon objectif, en tant que pasteur, c'est qu'un maximum de pécheurs soient dans l'église, soient dans la salle, soient dans la communauté, soient au contact de chrétiens. Parce que c'est en étant en contact de chrétiens que tu verras une nouvelle manière de vivre. En fait, les gens ont suivi Jésus et c'est en suivant Jésus qu'ils se sont dit « Mais ah ouais, il est spécial, il a un truc spécial, lui, tu vois. » C'est pas juste en adhérant à un discours, mais c'est en le suivant, tu vois, qu'ils ont vu qu'il était spécial, tu vois. Et c'est pareil dans la vie chrétienne. Le disciple-là, c'est pas seulement de prêcher un discours à l'évangile, mais c'est de le vivre et de montrer aux gens comment on vit l'évangile. Tu vois ce que je veux dire? Ah, donc là, c'est très pratico-pratique, tu vois.
Ouais.
Moi, je l'ai vu dans mon assemblée, j'ai vu des chrétiens, enfin, j'ai vu des païens, des gens... païen, c'est un mot dur. C'est un mot très... Mais j'ai vu des personnes qui ne connaissaient pas Dieu, voilà, je corrige mon discours, à venir à Dieu. Parce qu'ils ont vu des chrétiens servir Dieu fidèlement dans toute la simplicité de la foi. Tu vois ce que je veux dire?
Et le principe, c'est pas de dire il faut changer pour venir à Christ, c'est plutôt viens à Christ, c'est lui qui va te changer.
Amen.
Et tu vois, tu parlais de cas par cas, tu as pris des exemples et tout. Et Jésus lui-même, je crois qu'il n'avait pas la même attitude selon la personne avec qui il était en interaction.
Ouais.
Quelqu'un qui s'approche de Dieu, même s'il vit dans le péché, je crois que Jésus l'accueille.
Ouais.
Mais il y a aussi une place parfois pour un discours peut-être plus dur. Jésus, par exemple, avec les pharisiens, il était très dur.
Très dur.
Pourquoi ? Parce que c'était des gens qui vivaient dans l'hypocrisie, ouais. qui se croyaient meilleurs que les autres, qui se croyaient justes. Au contraire, avec la femme adultère, tout le monde voulait la lapider.
Et lui, il l'a sauvée.
Lui, il a dit, celui qui n'a pas péché, il jette la première pierre. Même s'il lui a dit, va et ne pêche plus.
Ouais.
Mais avec les pharisiens, il n'y avait pas ce même discours, tu vois ce que je veux dire ? Et je crois que nous aussi, on ne devrait pas forcément avoir la même attitude avec quelqu'un qui vient à Dieu, qui peut-être lutte avec des péchés et qui a conscience de son péché, tu vois ?
Bien sûr.
Cette personne a besoin de la grâce.
Ouais.
Mais quelqu'un qui soit est né de nouveau, soit se fait passer pour un chrétien, mais qui vit dans le péché, consciemment,
ouais.
qui ne se repent pas...
Il faut être dur.
Je crois que là...
Il faut lui reprocher l'évangile. Je suis totalement d'accord avec toi. Et ce sont les derniers moyens de grâce, justement.
Hmm.
Un frère, ensuite, deux frères,
oui.
ensuite... C'est des moyens de grâce
oui,
aussi.
Moi, 18.
C'est aussi des moyens de grâce.
La discipline d'église, oui, ouais. tout à fait.
C'est des moyens de grâce mais que grave. Dieu donne, tu vois.
Une fois, on avait étudié ça avec le groupe de jeunes et je leur ai dit, les gars, j'ai besoin de ça. Ouais. Si jamais vous me voyez pécher, là, ouais. reprenez-moi.
Ouais.
Et si je me reprends pas, reprenez-moi à plusieurs. Et si je me reprends pas, reprenez-moi devant l'église.
Devant l'église.
Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai besoin de ça. C'est un moyen de grâce pour moi.
C'est des garde-fous, hein. Ouais.
J'ai envie que vous fassiez ça pour moi.
C'est fort. C'est très humble aussi. Non, il faut l'appliquer, il faut totalement l'appliquer. Et je crois qu'il y a des personnes, comme tu l'as dit, qui ont besoin qu'on leur parle français, qu'on leur dise les choses. Si on devait résumer l'esprit qui était au milieu des pharisiens, c'était un esprit de jugement et un esprit... Quand j'ai un esprit, comprenez-moi, hein, c'est pas genre un esprit qui les animait en mode... Et plus au sens, une logique.
Un
état d'esprit. Un esprit de... Ouais, un esprit de jugement, un esprit de rejet, un esprit de religieux, tu vois. Puis c'est attaché aux pratiques qu'à la vie réelle de Dieu. Moi, je sais que parfois, lorsque je vois des personnes dans mon église qui sont dans le manque de pardon, qui sont dans le jugement vis-à-vis de la vie d'une personne, c'est un esprit pharisien pour moi, tu vois. Parce que, tu vois, un exemple tout bête, hein, moi, à partir du moment où tu viens me voir et tu me dis, Pasteur Rubens, je pardonnerai jamais cette personne, je te dirais...
Il y a un problème.
Il y a un énorme problème.
T'es sûr que t'as capté le pardon de Christ, en fait ?
C'est... En fait, tout commence par le pardon dans la foi chrétienne.
Ouais. Pardonne-nous comme nous pardonnons.
Exactement. Exactement.
Alors, on dit ça comme si c'était facile de pardonner.
Non, c'est pas simple.
Mais juste de refuser le pardon, je crois que c'est grave.
Pour moi, ça révèle qu'il y a quelque chose qui a gangréné dans le cœur d'une personne qui n'est pas de Dieu, tu vois. Et bon, c'est triste, tu vois, ça peut arriver malheureusement. Enfin, il y a des choses qui se passent, c'est dingue aussi, tu vois. Donc, parfois, il faut aussi de...
Non, mais il y a une différence entre dire « j'arrive pas à pardonner, mais j'essaye de toutes mes forces », tu vois, que de dire « je veux pas, jamais je pardonnerai ». C'est pas la même attitude de cœur.
C'est très vrai, c'est très très vrai. C'est très vrai.
Et parfois, il faut pardonner, repardonner. Et peut-être que toute ta vie, tu vas lutter avec ça, parce qu'il va falloir que tu pardonnes jour après jour, parce qu'il y a des cas où c'est très difficile.
Très très difficile, ouais.
Mais je crois que quand t'as compris le pardon de Dieu pour toi,
ouais.
t'as la force de pardonner aussi.
Ouais. J'ai prié à ce qu'on puisse avoir le même amour que Christ a eu pour nous. Là, tu vas me dire, mais enfin, c'est chaud d'aimer comme Jésus, est-ce que c'est possible ? Si la Bible le dit, c'est qu'on peut avoir un amour qui s'apporte à celui de Christ, tu vois. Après, on ne sera jamais comme Christ, parce que voilà, je pense que c'est que quand on sera au ciel qu'on sera comme lui. Mais je pense qu'il est possible de vivre une vie qui honore pleinement Dieu, tu vois, dans nos œuvres, justement. Tu vois. Des œuvres qui révèlent justement qu'on a été sauvés par Christ. Voilà.
Merci beaucoup, Rubens.
Avec grand plaisir.
Je pense qu'on a vraiment fait à peu près le tour de la question.
J'espère.
Pour finir, j'avais quand même une dernière requête.
Ouais.
Il nous reste 30 secondes.
30 secondes, c'est chaud.
Et j'aimerais que tu t'adresses à la caméra et que tu puisses, je sais pas, peut-être résumer le message de la grâce. Pour quelqu'un qui nous suit.
Alors, la grâce de Dieu, c'est l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ qui s'est manifestée à la croix pour les péchés de l'humanité. Il est mort pour nos péchés. Il est resté 3 jours après afin qu'on ait la vie éternelle. Et la grâce de Dieu, elle est pour les êtres humains qui se sentent pécheurs. Donc si tu es pécheur aujourd'hui, si tu crois en Christ, tu peux obtenir la vie éternelle par la grâce de Christ. Et ça ne dépend pas de toi. Ça dépend uniquement de Dieu qui l'a fait pour toi. Voilà. Moins de 30 secondes. Ça va,
bravo.
C'est bon. Ah ok, ah, ouais, magnifique.
Là, t'as relevé le défi bien comme il faut.
Magnifique.
Et merci beaucoup Ruben, c'était vraiment un plaisir, une grâce.
C'est à toi, Jonathan.
J'ai beaucoup aimé cette discussion.
Yes, moi aussi.
À une prochaine.
À une prochaine.